Alors voilà, aujourd'hui nous avons le cours du 16 novembre 2020. Il est enregistré par audio, il est enregistré par caméra YouTube. Et donc c'est pour le cours d'anthropologie intitulé « L'insoutenable légèreté de l'homme ». Jean-Louis, prend une feuille de route, tu en as une. Très bien. Et alors, voilà, nous sommes au chapitre 5. C'est le chapitre sur l'histoire. Il n'y aura plus que deux autres chapitres. Alors, ensuite, un chapitre sur la mort, que je vais développer en deux leçons, et puis un chapitre 7 sur l'homme devant Dieu à un niveau philosophique, que je vais développer également en deux leçons. Alors, pour l'histoire, je vais vous proposer une réflexion sur l'histoire qui est un peu spéculative. Ça veut dire qu'on va remuer de grandes idées, hein. Je ne vais pas faire de l'histoire concrète, positive, évidemment. Et je vais m'inspirer d'un auteur qui s'appelle Gaston Fessard. Gaston Fessard, c'est un jésuite français, voilà, qui a beaucoup étudié Hegel, Marx, qui a vécu la guerre... que j'ai encore rencontré dans les années 70. Et alors voilà, je m'appuie sur deux textes qu'il a écrits et dont vous avez les références bibliographiques sur votre feuille de route. Gaston Fessard donc était un très bon connaisseur de Hegel d'abord, de Marx ensuite, au point que Kojève, qui était un philosophe français communiste marxiste jusqu'à la guerre, disait, c'est bien dommage hein, que Fessard soit un jésuite, parce que sinon il aurait été le meilleur penseur du parti. Tellement il connaissait à fond Marx. Et en effet, disons, il va déployer une vision chrétienne, si on veut, de l'histoire, mais en partant des présupposés de Marx, et en essayant de répondre à Marx. Vous avez vu sur la petite photo qui ouvrait le YouTube que vous allez peut-être revoir à nouveau, que je me suis fait photographier avec cette image aussi, Hegel, la phénoménologie de l'esprit. Pourquoi? Parce que dans la phénoménologie de l'esprit, au chapitre, comme c'est indiqué sur votre feuille, au chapitre 4a, il y a la fameuse description de la dialectique du maître et de l'esclave. La dialectique du maître et de l'esclave que je vais vous exposer, disons de manière, si possible, assez précise, et montrer comment Marx ensuite s'en sert en l'inversant. Évidemment, nous sommes dans des dialectiques, donc à chaque fois on va inverser. Hein. Alors, Fessard va constater que dire que le moteur de l'histoire, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, c'est un peu dur, hein. Comment est-ce que l'histoire peut tenir ensemble s'il n'y a que une lutte entre le maître et l'esclave? Il dit non, au contraire, le lien social n'est pas ce lien de domination, hein, de bras de fer, de pouvoir, de rapport de force, mais il y a d'abord un lien eh bien, qui attire les gens les uns vers les autres, et c'est la dialectique de l'homme et de la femme. Il va contraposer hein, la dialectique de l'homme et de la femme, mais en la comparant à celle du maître et de l'esclave, et en montrant qu'en combinant les deux, on arrive à vraiment une explication du moteur de l'histoire, si on veut. Voilà. Pour lui, je rappelle donc au chapitre 2, j'ai parlé de la liberté, au singulier, si on veut. Maintenant, avec le langage, on est déjà entré dans l'intercommunication, avec la société, bien sûr, avec les rapports sociaux, et avec... l'histoire, on a cette même société, mais qui est décrite dans son mouvement, cette fois-ci, non plus de manière statique. Les sphères sociales, que nous allons voir maintenant, eh bien, elles sont décrites dans le mouvement de l'histoire. C'est le chapitre 5, avec les trois dialectiques de Fessard. Alors, Fessard va développer donc trois dialectiques que vous avez là sur votre feuille, maître-esclave, homme-femme, et puis, au point 7, vous avez la dialectique du juif et du païen, qui est aussi la dialectique de Dieu et de l'humanité. J'ai rajouté à la main hein, du juif et du païen, mais sur votre feuille de route qu'on a envoyée, il y avait déjà la correction, je pense. Voilà, les trois dialectiques. Alors, pourquoi pense-t-il à ces trois dialectiques? Son point de départ, c'est maître-esclave, et il se souvient du fameux verset de saint Paul, que vous avez aussi au bas de votre feuille de route, Galates 3, 28. Paul dit aux Galates, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous à présent, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus de différence entre vous, parce que vous êtes tous baptisés dans le même Christ. Il n'y a plus de différence de niveau. Vous êtes égaux devant Dieu, vous êtes tous fils de Dieu, hommes et femmes d'ailleurs, parce que vous recevez le baptême, hommes et femmes, alors que les Juifs, eh bien, il y avait la circoncision que pour les hommes, pas pour les femmes, donc il y avait une différence là nette au niveau religieux. Vous êtes donc tous des fils de Dieu, parce que vous avez revêtu le Christ dans le baptême. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Et donc il se souvient, à partir de ce verset, 3:28, qui est très célèbre, eh bien, qui a au fond trois dialectiques, maître-esclave, homme-femme et juif-païen. La dialectique du maître et de l'esclave, Phénoménologie de l'esprit, ce sont les deux volumes ici, écrit en 1807. Hegel est né en 1770, donc il a 37 ans, c'est son premier ouvrage force, qui va vraiment le faire connaître comme un grand philosophe. Dans la phénoménologie de l'esprit, on a l'odyssée de la conscience. Comment est-ce que l'homme prend conscience du fait qu'il est un homme, qu'il est différent de la nature et qu'il est différent de Dieu? Vous avez reconnu les trois pôles, l'homme, Dieu, la nature. Comment est-ce que l'homme petit à petit se rend compte qu'il est un homme, qu'il est autre chose et que la nature et que Dieu, même s'il est peut-être dans la nature et même s'il est peut-être créé par Dieu, il est quand même différent de ces deux autres, avec des liens bien sûr. Eh bien, c'est dans une lutte avec l'autre, deux hommes ensemble qui luttent, que l'homme va prendre conscience de lui-même. De quelle manière? Eh bien, cette dialectique, tout est dialectique chez Hegel et chez Marx et chez Fessard, tout est dialectique. Il y a deux temps. Le premier temps, c'est la lutte à mort. Deux consciences naturelles, à peine sorties des brumes de l'animalité, deux consciences naturelles primitives, préhumaines, se rencontrent et voient dans l'autre un objet. À s'approprier, à consommer, à asservir. D'où lutte. Lutte, mais lutte à mort. Comme ça arrive chez les animaux. Lutte à mort. Alors qui va gagner? Le plus fort ou celui qui a le plus d'audace? Voilà la question. C'est peut-être le plus fort, mais c'est celui qui risque sa vie qui va gagner. Parce que, dit-il, qu'est-ce qui va se passer? Les deux consciences vont un peu prendre conscience d'elles-mêmes, justement, qu'elles sont un sujet, qu'elles vont peut-être perdre la vie. Et l'une va peut-être dire, mais moi, j'ai pas envie de perdre ma vie, je me remets à celui qui est devant moi. Et l'autre dit, non, moi je suis prêt à perdre ma vie, et je vais me battre jusqu'à dominer, jusqu'à tuer l'autre, ou jusqu'à être tué, mais moi j'ai l'audace d'aller jusqu'au bout. Et bien finalement, c'est le plus audacieux, le plus téméraire qui l'emporte. Parce que l'autre ne va pas se laisser tuer, il va demander grâce, et il va s'aplatir, il va devenir esclave. Donc, on prend conscience de soi dans une lutte à mort où on risque sa vie. Celui qui risque sa vie jusqu'à mourir, finalement il l'emporte, il devient le maître, et l'autre qui a tremblé dans son fondement, qui n'a pas voulu perdre sa vie, il doit perdre sa vie en la réduisant en esclavage. Le vainqueur accède par cette reconnaissance de l'autre à la conscience de lui, de sa propre liberté. C'est parce qu'un autre me dit « tu es mon maître » que je me rends compte que je suis quelqu'un. Et l'autre, en disant cela, il se reconnaît lui-même comme esclave, mais donc il n'existe plus pour lui-même. Il n'existe plus pour soi. Le maître existe pour lui-même et domine l'esclave. L'esclave existe, mais est-ce que ça vaut la peine d'exister si c'est pour exister pour autrui? Uniquement, disons, dans cette soumission à l'autre. En tout cas, le maître a pris conscience de sa liberté. Prenant conscience de cette liberté, il prend conscience vraiment de lui-même. Et il instaure un rapport d'inégalité. Lui est le maître, l'autre est l'esclave, c'est la domination. apparaît ainsi le premier lien social qui est un lien de domination et de reconnaissance. Après une lutte à mort, reconnaissance de l'esclave, je ne veux pas perdre ma vie, je te reconnais comme maître. Voilà que eh bien, les deux sont mis maintenant dans une position bien claire. Et c'est le premier lien social. Et est-ce que c'est le seul? Et voilà la question que Fessard se pose. Hein? Est-ce que c'est le seul? Alors au fond, c'est un espèce de parabole, de mythe, hein, des origines, comme on en trouve ailleurs, comme on en trouve dans la Bible, en Genèse 1 à 3 par exemple. Ben là, on imagine hein, aussi le début de l'humanité. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Vous savez tous bien qu'on peut mettre quelques sourdines, même s'il y a un sens à tout cela, mais il y a un sens aussi à la dialectique du maître et d'esclave. Il y a un sens aussi au contrat social de Rousseau, qui imagine autrement hein, les débuts de l'humanité. Ou bien du Léviathan de Hobbes, il y a là aussi. Hein. Alors Rousseau, par exemple, il décrit l'homme comme naturellement bon. C'est à partir de là qu'on va partir. Hein. Et bon, le fait de se mettre ensemble va les rendre mauvais, donc on fait un contrat social, etc. Bon, pour Hobbes, c'est autre chose. L'homme est défini comme homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Donc au point de départ, ils se battent aussi. Hein. Voilà. Donc ce sont des mythes un peu des origines de l'humanité qui, est-ce que ça correspond à une réalité historique? Sans doute que non, mais en même temps le sens est là. Et ce sens eh bien, a transi sans doute les origines de l'humanité. Mais le fait que l'un est devenu le maître et l'autre l'esclave, ça fait une différenciation, ça fait un lien social entre guillemets. Mais pour faire durer cette reconnaissance, le maître va imposer à l'esclave de rester esclave et il va le lui faire sentir en le faisant travailler. Il condamne l'esclave au travail et lui, il se repose. De nouveau, schématisation, bien sûr. Hein. Le travail, eh bien, c'est pour l'esclave et la jouissance, c'est pour le maître. Alors l'esclave doit travailler, il doit produire des choses et dès que cette chose est produite, eh bien, le maître le lui vole pour en profiter. Et l'esclave doit recommencer à travailler et voilà. Et tout ce qu'il produit lui est volé. Et l'autre ne produit rien, mais jouit de tout. Mais à la longue, l'esclave commence à gagner un certain savoir-faire. Et le maître, dans sa paresse, hein, eh bien, commence un peu aussi, lui, à se débiliter et à devenir moins prudent, moins malin, etc. Voilà. Et l'angoisse dans laquelle l'esclave travaille lui apprend finalement que l'existence naturelle sans la liberté n'a pas de valeur. À quoi ça sert hein, d'être un homme si c'est pour être esclave? C'est la liberté, hein, la valeur suprême de l'homme. Mais lui, il en est complètement privé. Il vit dans l'angoisse. Alors il connaît vraiment finalement le bien dont il est privé et qu'on lui vole constamment. Il connaît vraiment la liberté parce qu'il n'en a pas. C'est vraiment le principe négatif, hein, la négativité chez Hegel. Le travail finit par discipliner l'esclave, par le rendre intelligent. Et la nature humaine se perfectionne chez cet esclave alors qu'elle est occupée à se déglinguer chez le maître. Hein, et un beau jour, l'esclave fait la révolution et ça se renverse. Hein. L'esclave dit, maintenant moi j'ai tous les moyens à ma disposition pour dominer le maître et pour renverser la situation. La dialectique, voilà, la dialectique. Ça commence par une lutte à mort. Et puis, ça continue par une révolution qui peut aussi d'ailleurs être une espèce de lutte à mort. Hegel, évidemment, a vu cela à un niveau phénoménologique, je dirais individuel, hein, comment la conscience arrive à prendre conscience d'elle-même, de soi. Marx va reprendre cette dialectique, mais il va la collectiviser, si on veut, hein, et en faire le principe de l'histoire, le moteur de l'objectivité historique. Donc c'est plus seulement un homme hein, qui essaie de dominer un autre, c'est toute une classe qui domine toute une autre classe. Et alors que Hegel, si on veut, prend un peu le point de vue du maître, hein, eh bien Marx prend le point de vue de l'esclave en disant « cette dialectique est tout à fait vraie et c'est pour ça qu'on va faire la révolution et renverser la vapeur ». Chez Hegel, on voit une espèce d'affirmation du pouvoir, de la domination, je dirais un principe plus masculin. Chez Marx, eh bien, c'est l'économique qui prime. Hein. Il faut produire, il faut que les esclaves, je dirais, aient suffisamment à manger. Et puis, à base de tout, c'est l'économie. Mais une économie qui, disons, en s'organisant, va aussi prendre le pouvoir politique. Alors, Fessard dit que finalement, nous avons la politique, ou le politique, l'économique, ce sont les deux grands principes de toute société. Il faut des gens qui commandent et des gens qui travaillent pour produire à manger. C'est comme, on le verra plus tard, c'est comme un principe plutôt masculin et plutôt féminin. Domination et production, nourrissage, etc. Pour Fessard, étudiant donc Hegel, étudiant Marx, il se dit, passionné par la philosophie de l'histoire, il se dit c'est quand même impossible que l'histoire tienne dans cette seule dialectique du maître et de l'esclave. C'est pas possible que le lien social ne soit qu'un lien finalement d'agressivité et de domination. Il y a un autre lien, sinon ça aurait explosé depuis très longtemps. Eh bien, dit-il, le vrai lien qui met de la cohésion dans le genre humain, c'est l'amour de l'homme et de la femme. L'homme et la femme se sentent attirés l'un vers l'autre, ils se sentent poussés par leur désir, bon, liberté de désir, point 1 et 2, mais aussi en vue d'une communion, point 3 et 4. Et donc c'est cette force attractive de l'un envers l'autre qui fait le vrai lien social. Alors par-dessus ce lien social de la famille au point de départ, il y a peut-être alors d'autres structures qui vont se construire où la dialectique du maître et de l'esclave va jouer. Mais est-ce que, dit-il, la dialectique de l'homme et de la femme n'est pas première, et beaucoup plus fondamentale et explique la cohérence, la cohésion du genre humain, avec peut-être les déchirements de la dialectique maître-esclave, mais on déchire quelque chose qui est quand même déjà tissé. Alors, Fessard reprend donc la dialectique de l'homme et de la femme en reprenant les temps même que Hegel mettait dans le maître et l'esclave. Premier temps, une lutte à mort. Eh bien, premier temps du rapport homme-femme, une lutte amoureuse. Deuxième temps, le travail de l'esclave. Deuxième temps de la dialectique homme-femme, le travail d'enfantement. C'est un vrai travail, mais qui produit à partir de l'amour et qui produit un être humain. Voilà. Premier temps, la lutte amoureuse. Lutte. Oui, mais comment cette lutte? Bien sûr, l'homme et la femme se sentent attirés l'un vers l'autre, ils appartiennent à la nature, ils appartiennent à l'animalité, donc il y a un besoin fondamental, chacun se tourne vers l'autre pour satisfaire un besoin. Mais il y a aussi, il n'y a pas que la dimension corporelle, il y a aussi la dimension psychique, intellectuelle, spirituelle. Et sur base de ce besoin fondamental, eh bien, ce besoin est transformé dans l'idée d'une élection personnelle. On ne prend pas n'importe qui, on prend quelqu'un avec qui on s'entend, avec qui on a des affinités psychiques, intellectuelles, etc. L'homme et la femme cherchent bien sûr l'autre, mais comme sujet, pas comme objet à consommer. Enfin oui, au niveau de l'animalité peut-être, ça peut arriver à certains si on veut, mais en principe, l'amour de l'homme et de la femme va plus loin. On reconnaît l'autre comme sujet. Et c'est d'ailleurs parce que l'autre est reconnu comme sujet qu'il reconnaît en miroir le premier comme sujet. Donc, ils se reconnaissent dans une lutte amoureuse où chacun essaye de dire à l'autre « Je t'aime et je t'aime plus que tu ne m'aimes. » C'est ça la lutte amoureuse. Aimer vraiment, c'est aimer plus. Plus que tout, jusqu'à l'infini. Chacun essayant de démontrer à l'autre qu'il l'aime plus, et d'ailleurs qu'il est plus aimable qu'il ne le croit. C'est ça que Fessard appelle la lutte amoureuse. Il y a une compétition, non pas pour être le meilleur, mais pour rendre l'autre meilleur. Et lui dire, je vais me sacrifier plus que toi pour t'aimer toi, parce que tu as plus de valeur que moi. Mais comme chacun dit ça à l'autre, eh ben, il y a une espèce de promotion, qui fait que chacun est valorisé, est idéalisé, et puis non seulement est idéalisé de manière, je dirais, vaporeuse, mais croit à cette idéalisation et finalement essaie de la réaliser. pour lui-même et pour l'autre. Donc cette attirance qui devient une vraie élection de la liberté devient une compétition non pas de lutte à mort, mais au contraire, hein, d'assurance réciproque de vie. Je t'aime pour toujours. Hein. Je t'aime plus que tout. Et comme chacun dit ça à l'autre, ben, chacun se valorise et grandit, je dirais, dans cette humanité, dans cette subjectivité. Et par là, on essaie de vaincre toutes les contingences, toutes les difficultés, etc. Voilà, il y a une promesse d'éternité, une promesse d'immortalité dans l'amour, même si on sait bien que nous sommes des êtres finis, ça fait partie de l'amour, de croire et de dire, et peut-être même d'affirmer à raison, hein, que dans notre amour, il y a quelque chose eh bien, qui dépasse la vie et la mort, quoi, hein, qui va au-delà de tout. Et dans cette dialectique, eh bien, il y a un travail qui se met en route parce que la femme fécondée par l'homme, eh bien, se met à produire, hein, non pas des objets ou des biens à consommer, mais elle se met à produire un autre homme, un autre petit homme, hein, qui va naître et qui va être comme eh bien, la preuve de leur union. Hein. Ils vont naître tous les deux dans ce lien d'amour, à la relation d'abord, et dans cette relation, à une relation qui produit elle-même, hein, un enfant, ou des enfants. Et donc voilà, il y a là un vrai travail pour la femme. Mais ce n'est pas un travail d'esclave. Elle le fait parce qu'elle aime. Et l'homme ne va pas lui voler le fruit de son travail. Au contraire, hein, il va reconnaître eh bien, que c'est son fils, le fils de sa femme, le fils de lui-même. Propriété privée, ben non, pas propriété privée, puisque c'est notre fils, hein, notre enfant. Il y a là un rapport social, un lien social qui se crée, qui est tout différent, hein, du rapport de la dialectique maître-esclave. La femme qui porte l'enfant, elle se sait en travail, ce n'est pas facile, hein, elle peut être malade, elle peut instantanément être mal, mais ce n'est pas comme, elle n'est pas dans l'angoisse de l'esclave, hein, qui croit qu'on va lui prendre le fruit de son travail. Au contraire, hein, elle est affermie par la promesse de la vie qu'elle porte en son sein. Et malgré les difficultés, eh bien, ses désirs se dilatent à l'infini. Ils ne sont pas frustrés. Elle dit, ben, mon fils ou ma fille, ben, elle va devenir ceci, cela, et puis comment est-ce qu'il sera ? Et avec son mari, elle rêve, hein, de toutes sortes de belles choses. Voilà, hein, au lieu d'être frustré, eh bien, c'est le désir qui se dilate. Et bien sûr, le fruit de ses entrailles va être séparé d'elle, comme l'ouvrier perd le fruit de son travail parce que le maître ne lui ravit. Donc ce fruit doit se séparer d'elle, bien sûr, mais en même temps, c'est pour rester, hein, comme l'union entre l'homme et la femme, moment important, solennel, que celui de la naissance, où l'homme reconnaît aussi le fruit de sa chair, hein, autant que pour la femme, et il reconnaît cela, eh bien, la nature hominisée, au sens où, ben voilà, c'était leur corps, hein, qui était fait de spermatozoïdes, d'ovules, hein, propulsés par les hormones, tout ce que vous voulez, c'était très naturel, eh bien, cette nature est maintenant hominisée, elle est transformée, subjectivisée. Et voilà, c'est un grand moment, hein, que celui de la naissance de l'enfant. Et ça, c'est le vrai lien social selon Fessard. Bien sûr, on ne peut pas nier que, surtout dans l'histoire humaine, hein, il y a eu aussi une dialectique, un peu maître-esclave entre l'homme et la femme. Hein, le principe masculin est souvent dominant, hein, le principe féminin, c'est souvent le principe qui doit travailler, qui doit nourrir, etc., qui peine beaucoup plus que l'homme. Mais évidemment, avec l'histoire de la culture, eh bien, je dirais, cette différence s'amenuise, et s'amenuise notamment, ben, dans la création de la famille. Hein. Parce que dans la famille, Peut-être que l'homme primitif était le mâle hein, qui dominait le clan, aussi bien les femmes que les enfants. Mais petit à petit, avec l'institution du mariage dont on a parlé la fois passée, eh bien, l'homme qui était un maître, peut-être un peu animal ou brutal, devient de plus en plus un époux et un père. Époux pour sa femme, père pour ses enfants. La femme qui peut-être, oui, certainement, au début, avait une fonction comme ça très, très biologique, très de reproductrice hein, de la tribu, parce qu'il fallait des guerriers, parce qu'il fallait des ouvriers, etc., eh bien, vient de plus en plus l'épouse et la mère, avec un lien, disons, beaucoup plus humanisé, de plus en plus humanisé. Et dans la fraternité, ces enfants qui naissent, eh bien, le rapport homme-femme aussi prend une nuance tout à fait nouvelle. Hein. Les frères et les sœurs sont comme la dilatation de cette unité ponctuelle du couple dans la fraternité où il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs, et où il y a en principe le triomphe universel de la prohibition de l'inceste. Donc les frères et les sœurs, tout petits parce qu'ils ne connaissent pas le désir sexuel, mais ça leur est inculqué, si on veut, et ils respectent hein, le frère ou la sœur, mais ils savent très bien que la sœur est une femme et que le frère est un garçon. Hein. Ils le savent et ils l'apprennent, mais ils l'apprennent en dehors d'un désir, parce qu'ils l'ont appris très jeune, hein, en dehors d'un désir de domination ou de consommation, et ils finissent par apprendre ce qu'est la masculinité, la féminité, je dirais avec une distance hein, qui leur permet d'intégrer tout cela dans une certaine paix, une reconnaissance d'égalité, de réciprocité. La fraternité hein, est extrêmement importante pour Fessard. Elle est au fond l'idéal hein, de toutes les sociétés. Quoi. Hein, égalité, liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Et la fraternité s'apprend dans la famille, à partir du rapport homme-femme, mais un rapport homme-femme qui est comme désexualisé, hein, désamorcé, mais non pas supprimé, au contraire, qui est adouci, apaisé, et où on apprend plus les différences, les complémentarités, les nuances dans un amour fraternel. Bien sûr, les aînés parfois dominent les plus jeunes, hein, aussi un problème de la fraternité, ça, hein. Mais les parents apprennent aux aînés à respecter les plus jeunes, à les aider, à les faire grandir. Bien sûr, les enfants se bagarrent, mais justement, pour avoir la paix, mais pas seulement, pour avoir la paix, on leur apprend à s'entendre. Les enfants, on leur apprend aussi à faire des choses, à aider, à travailler. Toutes ces luttes et ces travaux enfantins des frères et des sœurs, eh bien, éduquent à la vie en société. Voilà, conclusion pour Fessard, eh bien, ce rapport homme-femme est premier par rapport à celui de maître-esclave. Il a inversé hein, le rapport en voyant que la lutte à mort devient une lutte amoureuse et que le travail d'esclave devient un travail d'enfantement, un travail de création, de fécondité du couple. Alors, dit-il, on peut constater dans l'histoire des périodes où une dialectique domine une autre, parce que les deux dialectiques sont sans cesse à l'œuvre. En tout phénomène, parfois une prépondérance de l'un sur l'autre, selon les époques. Alors dit-il, par exemple, après-guerre, en Europe, il y avait une exacerbation du rapport maître-esclave, avec notamment toute la question de la guerre froide, du communisme, etc. On sortait du nazisme, qui lui, vraiment, hein, souligne la domination du maître. Avec le communisme, ben on a la dialectique de l'esclave qui se révolte, etc. Voilà, toutes sortes de conflits politiques qui se sont un peu apaisés, peut-être. Et maintenant, dit-il, nous sommes peut-être plus dans une société où c'est la dialectique homme-femme qui se problématise. Le point névralgique du débat socioculturel est peut-être plus hein, homme-femme que maître-esclave. Bon, il y a une certaine démocratie, une certaine égalité, bon. Et les gens, il y a le féminisme, il y a les coming out, il y a la société, disons, beaucoup plus libérale à tous ces niveaux-là. Et on se pose la question, mais finalement, c'est quoi le rapport homme-femme? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? C'est quoi un époux? C'est quoi un père, une mère, hein? Voilà. À certaines époques, on est plus dans la guerre, je dirais, hein, entre les nations. À une autre époque, on est plus dans des questionnements, hein, de type culturel. Freud dit que le père est un objet de foi et que la mère est un objet sensiblement touché. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand un enfant naît, ben, l'accouchement, il n'y a pas moyen de nier que c'est la mère et l'enfant, quoi, hein, l'enfant de sa mère. Mais qui est le père? Ah ben, qui est le père, ça, qui est le père? Ça, c'est une question qu'on se pose et à laquelle on répond, et on n'a pas beaucoup de preuves. Hein. Donc, qui est le père? Eh bien, c'est la mère qui dit à l'enfant, celui, c'est ton père. Et de la même manière, hein, c'est la mère qui dit au père, c'est toi le père de cet enfant. Hein. Donc Freud fait cette remarque qui est intéressante, que le rapport du père est un rapport beaucoup plus distancié chronologiquement. La vérification, hein, de la paternité, elle s'appuie sur un acte de foi, hein, sur un témoignage et un acte de foi. La mère est plus celle qui... Je reprends des expressions de Scheller, hein, qui est proche de la nature et qui ne peut pas cacher qu'elle est la mère, tandis que le père, eh bien, il est comme le symbole d'une réalité invisible dont on peut témoigner. Alors, être le père, c'est très important, mais c'est parce que la mère dit c'est ton père qu'on le croit. Hein. Alors qu'il en donne évidemment toutes les preuves, mais voilà, il y a quelque chose de très différent entre le père et la mère. L'un, un principe, disons, plus invisible, plus de l'ordre du langage, du témoignage, de la confiance, tandis que la mère, elle, ben, elle est beaucoup plus proche et beaucoup plus dans l'évidence immédiate. Alors, je passe au point 4. Donc, j'ai parlé de l'interférence des dialectiques maître-esclave et homme-femme, j'aurais pu ajouter la fraternité, hein, fraternité. Je passe au point 4, de la famille au peuple. Voilà, les familles sont là, il y a de nombreuses familles. Les familles, bon, ont une origine, hein, naturelle, mais aussi une origine historique. Donc voilà, ils sont nés là-bas, de tel et tel parent, etc. Bon, ça c'est une famille, mais ils sont aussi, c'est le cycle des générations, etc. Mais ils sont aussi ceux qui ont fait ceci, ceux qui ont fait cela. On se souvient du grand-père, on l'a enterré là-bas, hein, c'est nos ascendants, etc. On respecte les morts, il y a la lignée, mais ça c'est une mémoire, hein, c'est une mémoire. On les enterre dans une terre qui est notre terre patrie, etc. La maternité de la terre qui reçoit à nouveau, eh bien, les ancêtres qui sont décédés. Et donc on passe d'une dialectique de la famille à une dialectique plus élargie, de l'unité ethnique, qui est à la fois naturelle et historique. L'ethnie, bon, c'est un petit peu à grands traits comme ça, hein, mais l'ethnie, ce sont des groupes de familles qui vont se réunir dans un peuple. Le peuple va s'organiser en nation. Une nation, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire un pouvoir politique, un pouvoir économique. De nouveau, un principe masculin, un principe féminin. Qui se déploie, hein. Alors quand le politique domine dans une nation, ben, on est plutôt dans des régimes, je dirais, autoritaires, masculins, quand au contraire on est dans des sociétés plus libérales où c'est l'économie qui domine, etc., on est plus dans une société de type, voilà, féminin. Mais de toute façon, je dirais, c'est la fraternité, ça veut dire la composition de ces deux dialectiques, hein, qui est l'idéal de la plupart de nos états modernes, hein, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Le maître, eh bien, devient seigneur, devient prince, devient roi, hein, il quitte le masque, disons, un peu menaçant du maître, mais il reste le maître, mais en étant bienveillant. L'esclave, eh bien, lui aussi, il est libéré, hein, il est affranchi, il devient citoyen. Mais il y a cette dialectique qui joue, donc, entre... Voilà, quelqu'un qui représente le pouvoir, la domination, et quelqu'un qui représente le service, mais avec donc une dialectique qui, disons, amenuise toujours les angles de ces oppositions. En période troublée, lorsque les États s'opposent les uns aux autres, parce qu'une fois que les nations sont constituées, elles se comportent aussi entre elles, hein, comme l'un qui veut dominer l'autre, hein, l'un qui veut annexer l'autre. Donc il y a aussi des guerres, des pays qui veulent, disons, esclavagiser d'autres pays, puis des luttes. Lorsqu'on est en période de guerre, eh bien, c'est souvent le principe politique qui domine. Hein. Il faut lutter vers l'extérieur, donc il faut un pouvoir fort qui prend les devants pour se défendre. Tandis que quand on est plutôt en période calme, c'est le principe de la production, de l'économie, du bien-être, les réorganisations internes, etc., qui prennent le devant de la scène. On n'a pas d'ennemis extérieurs, donc on peut se concentrer sur les problèmes intérieurs, de prospérité, etc., principe plus féminin. De la fraternité nationale à la fraternité humaine totale, après toutes ces luttes entre les États, luttes qui auront sans doute toujours lieu, eh bien quand même on rêve utopiquement d'une fraternité universelle. Pas seulement la fraternité des citoyens de telle démocratie en paix, mais du monde. Si nous sommes citoyens du monde et nous voulons une fraternité universelle, comment va-t-on faire? Eh bien, voilà, on y travaille tous avec le danger que réapparaisse sans cesse un pouvoir fort de type nazi ou bien un pouvoir qui met tout sur l'économie comme le communisme. Bon, il y avait aussi un pouvoir fort, évidemment. Et dans cet idéal d'une fraternité universelle, dit Fessard, elle n'est possible en fait. C'est assez simple, mais c'est assez génial aussi. Une fraternité n'est possible que si on reconnaît le père et la mère. Comment serions-nous frères les uns des autres si nous ne voulons reconnaître ni notre père ni notre mère? Nous sommes frères parce que nous avons le même père et la même mère, et nous le savons. Mais si on ne veut pas reconnaître le père et la mère, comment va-t-on être frère? Ça, c'est la grande question de l'humanité. Eh bien, au fond, reconnaître son père et sa mère pour l'humanité comme telle, c'est quoi? Reconnaître la mère nature et Dieu le Père, qui est invisible, qui n'est attestable que dans ce lien de confiance qu'on fait, dans ce témoignage qu'on reçoit, que la nature, elle a été fécondée ou créée par Dieu. Donc, Fessard remonte donc de plus en plus haut en disant, voilà, l'histoire, c'est une dialectique entre deux dialectiques, maître-esclave et homme-femme, en vue de trouver la fraternité universelle. Et cette fraternité universelle n'est possible que si on reconnaît son père et sa mère. Et au fond, reconnaître sa mère, c'est reconnaître la nature. C'est assez facile, tout le monde veut sauver la planète, l'écologie, tout le monde est d'accord, c'est une évidence, c'est urgent, etc. Il n'y a pas besoin de faire des grandes démonstrations. Mais il faut aussi reconnaître le Père. Selon Fessard, si on ne reconnaît pas Dieu comme Père, comme Créateur, on n'arrivera pas non plus à respecter la nature. On n'arrivera pas à se respecter les uns les autres. On ne peut pas être frère et sœur si on n'a qu'une mère. Et la mère nature, eh bien, c'est très bien la mère nature, mais si elle n'est pas mise en vis-à-vis, visible à visible, avec le Père qui est Dieu, eh bien, cette fraternité, d'une certaine manière, n'aura jamais lieu. Vous voyez que ce sont des grandes spéculations, et en même temps, je trouve que c'est quand même des thèmes qui vaut la peine de réfléchir. Parce qu'on ne peut pas idolâtrer la nature, idolâtrer la mère, même au niveau psychologique. Vous savez que, si on ne reconnaît que la mère, il y a un gros problème qui se pose. Alors, comment est-ce que la dialectique de l'humanité qui veut la fraternité entre la nature mère et Dieu Père, comment est-ce qu'elle va se jouer concrètement dans l'histoire? Selon Fessard, elle se joue dans la révélation chrétienne. C'est la révélation chrétienne qui nous révèle que Dieu est créateur, que la nature n'est pas là depuis toujours, sans origine, mais que c'est Dieu qui est l'origine, en tout cas qui est le partenaire de cette nature, Dieu, nature et l'homme. Et cette révélation va se faire, eh bien, selon lui bien sûr, dans la dialectique du juif et du païen. Alors là c'est très intéressant, hein, c'est un peu spéculatif bien sûr, mais on a déjà vu Galates 3.28, ni homme ni femme, ni maître ni esclave, ni juif ni grec. Ça veut dire ni juif ni païen, hein. Grec c'est les païens. Comment va-t-on niveler, hein, les angles de cette dialectique juif-païen? Parce qu'en effet, Dieu a choisi, Dieu Père a choisi de se révéler à un peuple. Alors, ce peuple élu, bien sûr, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, ben, d'abord, il découvre Dieu comme un maître dur d'ailleurs, hein, comme un maître qui commande. Et le peuple élu est d'abord un peuple un peu esclave, quoi, hein, qui doit obéir, qui doit, etc. Et s'il n'obéit pas, eh ben, ils perdent la guerre et ils sont maltraités, ils partent en déportation, etc. Hein? Voilà, donc le Dieu qui se révèle d'abord, ou est d'abord perçu, si on veut, comme un maître, mais petit à petit, avec cette révélation, à l'intérieur du peuple juif, du peuple élu, le maître devient de plus en plus un époux. Un époux, hein, il tisse des liens de tendresse avec son peuple, hein, il le conduit comme un enfant, etc. Un époux, le peuple élu devient une épouse, hein, dont les fils, ça veut dire les membres du peuple, ben sont les enfants, etc. Donc voilà, le peuple élu est ce peuple qui apprend, lui tout seul d'abord, hein, que Dieu l'aime, que Dieu l'aime. Il s'est d'abord présenté sous un visage un peu menaçant, un peu de domination, mais petit à petit, eh bien, il se sent élu vraiment comme l'enfant, hein, de son père. Et ce peuple élu doit annoncer la bonne nouvelle, bien sûr, enfin, il est témoin de cette bonne nouvelle, et le païen doit se convertir à cette bonne nouvelle. Il doit se convertir. Et il y a une dialectique qui se joue entre juifs et païens. Je ne vais pas entrer dans les détails, elle est assez compliquée parce que, notamment, hein, c'est saint Paul qui la met en route. Et saint Paul, parfois, a des raisonnements assez compliqués. Vous irez relire, si vous voulez, Romains 9 à 11, c'est assez compliqué. Pourquoi est-ce que le peuple élu, finalement, n'a pas accepté le Christ? Ou en tout cas, les 12 disciples, bien sûr, oui, mais peu de juifs ont accepté le Christ. Ils l'ont refusé, parce qu'au fond, le Christ dit que ce message est pour tout le monde. Mais si ce message est pour tout le monde, ils ne sont plus le peuple élu. Ils sont comme rejetés. Hein? Ils sont comme rejetés. Donc le peuple élu, instamment, il tient à son élection à l'exclusion des autres. Mais lorsque Dieu, non seulement, hein, devient un maître, de maître devient époux, devient père, et veut devenir le père de tous, ah non, le frère aîné ne veut pas avoir de frère cadet. Hein, ne pas avoir d'autres frères. Et les païens, eux, ils ne sont pas élus, mais ils sont invités à entrer dans l'élection du peuple juif par une conversion. Ils doivent se convertir. Eux, ils n'ont pas été élus. Hein. Ils sont finalement élus en seconde vague, si on veut, et ils doivent se convertir à cette bonne nouvelle. Et il y a une dialectique entre le juif et le païen. Comment se fait-il? Grande question quand même, hein, que le peuple juif n'a pas accepté le message du Christ. Mais aussi, autre grande question, comment se fait-il que ce peuple juif est encore là pour témoigner de la première alliance, qui est une alliance irrévocable? Ont-ils raison de le faire? Parfaitement. Mais pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas, hein, à l'inclusion, hein, des païens, en reconnaissant que la première alliance est finalement universelle et pas seulement, hein, particulière? Dans l'initiative gratuite de Dieu de choisir ce peuple, nous voyons, eh bien, l'acte de Dieu. Dans la conversion du païen qui accepte d'être inclus dans cette alliance, nous voyons l'effort de l'homme. De nouveau, c'est un peu dialectique, hein? Donc, le païen doit faire un effort pour entrer dans l'élection d'un autre, et le juif, sans cesser d'être juif, doit accepter qu'un autre partage l'élection qui, au point de départ, n'était que pour lui. Alors, quelle est la grande difficulté pour le juif? C'est d'accepter d'avoir été élu. Parce qu'il y a des juifs qui disent, mais moi, je n'ai rien à faire de cette élection. Pourquoi est-ce que Dieu m'élit? J'ai pas besoin de ça. Son problème à lui, ce n'est pas de se convertir. Le juif n'a pas à se convertir. Il a à admettre qu'il est élu, mais aussi que cette élection s'ouvre à tous maintenant. Tandis que le païen, lui, il doit admettre qu'il n'est pas élu, mais qu'il peut entrer moyennement une conversion dans cette élection qu'un autre veut bien lui partager, s'il le veut bien. Donc voilà, c'est tout un processus dialectique de nouveau, hein, que Fessard met en évidence, celui de l'histoire sainte, de l'ancienne alliance et de l'alliance nouvelle éternelle dans le Christ. Le Christ, qui est le Fils de Dieu et qui est le Frère universel. Donc nous avons là de nouveau, hein, si vous voulez, Dieu Père invisible. Alors le peuple élu, Israël, qui lui est bien visible, qui est comme la mère, hein, de tous ses enfants élus, mais la mère qui s'universalise dans l'Église et qui est finalement la mère de tous les humains qui veulent se convertir à cette bonne nouvelle, et le Christ au centre est le Frère universel. À la fois le Fils de Dieu, à la fois le Fils de l'homme, à la fois entièrement de l'ancienne alliance et à la fois parfaitement de la nouvelle alliance, parce qu'il transforme l'ancienne dans la nouvelle, hein, en acceptant non seulement l'élection, mais en l'ouvrant, hein, aux autres. Voilà donc, Fessard voit dans cette dialectique du juif et du païen, eh bien, la loi de croissance de l'Église, qui progressivement, eh bien, idéalement, en tout cas utopiquement, devrait inclure toute l'humanité dans une fraternité universelle, non plus seulement politique, si on veut, hein, mais aussi religieuse. Donc pas seulement des accords d'hommes entre eux, mais d'hommes entre eux parce qu'ils ont conscience, hein, que Dieu est leur Père et que la création est leur mère, finalement. Voilà. Vous voyez que ce sont des idées assez grandes, hein. Mais voilà, il me semble qu'il y a quand même à prendre des choses intéressantes chez lui. La triple historicité de Fessard, un peu dans la même ligne, il développe qu'il y a l'histoire à trois dimensions. Il y a trois historicités. Alors, il n'y a qu'une histoire, si on veut, hein, mais il y a trois aspects à cette histoire. Il y a trois historicités. Il y a une historicité naturelle, une historicité humaine et une historicité surnaturelle. Bien, alors je vais faire un petit schéma au tableau et je crois qu'à la caméra on pourra voir progressivement le schéma se construire parce que j'ai essayé de diriger la caméra sur le tableau. Voilà, premièrement, l'histoire. Quand on pense à l'histoire, on se dit ben, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe, voilà, des années, des siècles, puis encore des siècles, voilà, l'histoire, eh bien, c'est quoi? Ben, c'est depuis le Big Bang, on ne sait pas quand c'est, mais voilà, c'est le temps qui passe, marqué par la révolution des astres, la gestation et la corruption des organismes, l'évolution, tout ce qu'on veut, mais enfin, au point de départ, on ne pense pas à l'évolution, hein. L'histoire, c'est le temps continu. Un temps continu, inexorable, égal à lui-même. Et c'est quand l'homme apparaît que ce temps prend un certain relief. Sinon, la nature, elle ne compte pas le temps, elle ne chronomètre pas. Hein. Donc, les astres tournent, puis les planètes, les volcans, tout ça, ça se fait comme ça. Il n'y a pas de... Alors ici, il va prononcer un grand mot. Hein, il n'y a pas d'avant et d'après dans cette histoire. Il y a un avant et un après chronologique, mais c'est continu. C'est un flux. Hein, où on ne distingue pas vraiment les choses. C'est l'homme qui va distinguer des glaciations différentes, des strates géologiques et tout ça, mais la nature elle-même, c'est un flux continu, une espèce de grand magma, hein, où les causes et les effets ben, se succèdent, et puis voilà. Il n'y a pas d'avant et d'après au sens propre du terme. Ou bien s'il y en a, alors il va les écrire avec une minuscule, l'avant et l'après. Avant avec une minuscule, après avec une minuscule. Parce que avant et après avec une majuscule, ça c'est ce que l'homme crée en prenant une décision. Lorsque vous prenez la décision de de faire la guerre, ben, il y a un avant la guerre et un après la guerre. Et là, ce n'est pas naturel. Hein. C'est un homme qui a pris une décision. Et là, vous allez dire qu'il y a l'avant-guerre, mais avec un grand A majuscule, parce que c'est de l'ordre de l'histoire, de l'histoire humaine, avec une décision de la liberté. Et il y a un après-guerre avec un A majuscule, après, parce que les hommes ont décidé d'arrêter la guerre, c'est l'histoire humaine, c'est pas l'histoire naturelle. Donc voilà, l'histoire naturelle se déroule avec des petits avant et après minuscules, et l'histoire humaine, semble-t-il, est en parallèle avec cette histoire, ou repose sur cette histoire naturelle, mais dans l'histoire humaine, il y a des grands A et des grands avant et des grands après. Et ces grands A, avant et après majuscules, dépendent de la liberté. L'homme a décidé. La nature ne décide rien. La nature, ça se fait. Voilà. Alors, comment comprendre l'histoire naturelle ? Ben, il y a des causes et des effets. D'accord ? Et comment comprendre l'histoire humaine ? Ben, il y a un sens des choses. Il y a un sens des choses. Il y a un sens des événements. Hein ? Une éruption volcanique, ce n'est pas un événement de la liberté. Mais une déclaration de guerre, c'est un événement de la liberté, qui aurait pu ne pas avoir lieu, ou plus tard, ou plus tôt. Tandis que l'éruption, ben ça, c'est dans un continu. Alors voilà. On a l'impression qu'il y a la ligne du temps continue, hein, et que sur cette ligne du temps continue repose l'histoire humaine. L'histoire humaine qui est l'histoire d'un peuple, de l'humanité, ou bien mon histoire à moi. Avec ma naissance et ma mort. Alors ça, ben, il y a, quand je suis à prendre une décision ici, ben, il y a un avant et un après avec majuscule. Mais ici, il y a des avant et des après avec minuscule. Alors cette histoire naturelle, qui est comme le socle de l'histoire humaine, l'homme distingue, grâce à la théorie de l'évolution, parce qu'avant ce n'était pas le cas, hein, à la théorie de l'évolution, l'homme distingue à l'intérieur de l'histoire naturelle des périodes. Hein, il met des avant et des après. Mais c'est tout à fait par rapport à soi qu'il met ses avant et ses après. Hein, ce n'est pas par rapport à la nature elle-même. Mais alors finalement, quel est le sens total de cette histoire? Comment est-ce que ça se boucle, ça se résume? Il y a des causes et des effets, histoire naturelle, il y a des événements qui ont un sens ou un non-sens, hein, ça c'est l'histoire de la liberté humaine, mais est-ce qu'il y a finalement un sens ultime, un sens dernier? Eh bien ça c'est l'historicité surnaturelle. Il y a, pense-t-on, hein, tout le monde est tenté de le penser, même si aussi c'est assez difficile de le penser et on peut nier qu'il y a un sens ultime, eh bien, en tout cas, disons, dans la religion, on pense qu'il y a un sens ultime, que toute cette histoire naturelle et cette histoire humaine font partie, en fait, d'une histoire où Dieu est en rapport avec la nature et avec l'homme. Et donc, je peux mettre ici un avant et un après, mais qui au fond n'existe pas, mais je vais vous l'expliquer. Hein. Donc, pour Fessard, il dit que dans l'esprit humain, il y a bien sûr cette histoire naturelle et cette histoire humaine, qui sont un peu en parallèle, mais qui n'ont de sens finalement l'une par l'autre et l'une avec l'autre que s'il y a un sens total, qui est donné par ce cercle que j'ai fait, hein, qui au fond est l'historicité surnaturelle, qui nous donne un alpha et un oméga. l'alpha et l'oméga, c'est le début de tout et c'est la fin de tout. Et cet alpha et cet oméga, c'est une décision, c'est une chose naturelle. Ben pour la religion, ben c'est une décision de Dieu. Hein. C'est donc avec un A majuscule. Mais ce A majuscule a créé le, hein, l'histoire naturelle avec le A minuscule. Alors finalement, qu'est-ce que c'est l'alpha et l'oméga? Eh bien, l'alpha pourrait être défini, selon lui, comme l'avant sans avant, A majuscule et puis A minuscule, et l'oméga comme l'après sans après. Un avant sans avant. Donc ici, Dieu a décidé de créer, si vous voulez, et ça, ça n'existe pas. Et ça, c'est l'après sans après, avec un minuscule, parce que ça, ça n'existe pas. Sur cette ligne du temps que j'ai dessinée. Hein, j'espère qu'on le voit un petit peu à la caméra. J'écris un peu mal, évidemment, comme d'habitude, mais voilà. Hein, c'est la manière dont il parle. Sur l'histoire naturelle, sur la ligne de l'histoire naturelle, il y a des avant et des après avec petit a, mais qui ne se savent pas des avant et des après. Hein. Ça, c'est un flux continu, inexorable. Dans l'histoire humaine, il y a des avant et des après avec des grands A, qui s'appuient bien sûr hein, sur les petits A. Et il y a l'alpha et l'oméga qui est l'avant sans avant et l'après sans après. Alors bien sûr, moi, quand je nais, ma naissance, ben c'est ici. Hein, supposons ma naissance et ma mort. À moi. Eh bien, moi, je ne suis pas un alpha et un oméga. Hein. Mais c'est quand même un événement, ma naissance. Et donc, il y a un avant de l'avant. Ici, c'est l'avant de l'avant de ma naissance. Petit a, grand A. L'avant de l'avant. Et ça, c'est l'après de l'après, grand A, de ma mort, parce que c'est quand même un événement que je meurs. Et donc, bon, avec toute cette dialectique de l'avant et de l'après, vous voyez un petit peu comment on parvient à jouer, pour dire au fond que, voilà, c'est dans ce cercle de l'histoire surnaturelle que se boucle le sens ultime et de l'histoire naturelle et de l'histoire humaine. Avec, alors maintenant évidemment c'est le Christ qui va arriver, en son centre, eh bien le Christ. Qui est censé, selon Fessard, ici, être le centre des temps et du temps des trois histoires. Alors de l'histoire naturelle, bon, on va pas financer là-dessus, hein, mais de l'histoire humaine certainement et de l'histoire surnaturelle certainement. Et il boucle donc le très haut et le très bas. Hein, et il est au centre de l'alpha et de l'oméga, qu'il est lui-même d'une certaine manière, hein, où l'alpha et l'oméga se concentrent en lui, le très haut et le très bas se concentrent en lui, il est au centre de l'histoire, et c'est le Christ qui donne finalement le sens ultime hein, de toute histoire, parce qu'il est, je dirais, l'événement majeur hein, de l'histoire surnaturelle. Alors une dernière remarque, c'est que j'ai présenté ici l'histoire naturelle comme l'histoire surnaturelle, pardon, comme étant la dernière étape de mon raisonnement. Hein. Or, dit-il, Fessard, et je crois que c'est vrai, dans toutes les cultures, la première histoire à paraître, c'est l'histoire sacrée, c'est l'histoire surnaturelle. La première histoire que les hommes ont pensée, ce n'est pas l'histoire politique et l'histoire des idées et l'histoire des sciences, évidemment. Ce n'est pas non plus le Pliocène, etc., et la glaciation qui a fait disparaître le Néandertal, c'est pas ça non plus. La première histoire dans laquelle l'homme s'est senti historique, eh bien, c'est dans ce rapport avec Dieu, avec le tout, avec le cosmos. Il a dit, mais comment ça marche, hein, le rapport entre moi qui vis dans le temps Et quoi? Et les dieux, ou Dieu, ou l'absolu, ou l'éternel, ou quoi? Au fond, la première histoire à surgir dans la conscience de l'homme, c'est l'histoire sacrée, c'est l'histoire surnaturelle, avec les grands mythes. Hein? Et toutes les manifestations, les sacrifices, les liturgies, toutes les explications qu'on a pour mettre ensemble une histoire qui se déroule au ciel de divin, et la pauvre petite histoire des hommes qui, eux, ne savent pas très bien comment diriger leur propre histoire, mais c'est en lien avec Dieu qu'ils donnent sens à leur vie. Dieu, singulier ou pluriel, hein, peu importe ici. Et donc, c'est au fond la dimension du sacré, de la transcendance, qui petit à petit a fait prendre conscience à l'homme qu'il est lui-même un être qui se dépasse, qui se transcende, et qui vit une histoire, et une histoire qui n'est pas comme l'histoire naturelle, hein, sans problème et sans décision, au contraire, qui est une histoire de liberté. Hein. Cette transcendance qu'on voyait d'abord dans la grande histoire sacrée, eh bien, c'est maintenant cette richesse de la liberté humaine qui fait l'histoire humaine avec tous ces événements. Cette histoire humaine qui est un grand tissu très complexe de toutes nos libertés individuelles, hein, de nos libertés individuelles qui se mettent au pluriel dans ces différentes dialectiques, hein, de l'homme et de la femme, du maître et de l'esclave, de la fraternité universelle, etc. Voilà un peu la grande vision historique que nous propose Gaston Fessard, et je trouve que c'est inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres philosophies de l'histoire? Est-ce qu'il y a d'autres théologies de l'histoire? Ben, vous savez que, par exemple, Saint Augustin a été certainement un des premiers, hein, à brosser une grande fresque de l'histoire de l'humanité, dans la Cité de Dieu notamment, et que d'autres penseurs ont essayé de faire cela. Thomas d'Aquin n'a pas beaucoup de philosophie de l'histoire. Hein. Saint Augustin en a vraiment une, Saint Thomas d'Aquin pas. Il est encore beaucoup plus subspecie eternitatis, hein, comme si tout était éternellement le même. Et voilà, aujourd'hui, bon, ben, bien sûr, c'est avec l'idéalisme allemand, Hegel, bien sûr, hein, que nous sommes entrés dans une vraie réflexion sur ce qu'est l'histoire humaine et pourquoi l'homme est par définition un être historique. Alors bien sûr, depuis lui, il y a eu beaucoup d'autres penseurs, mais je crois que ça reste quand même assez intéressant. Et, eh bien voilà, je terminerai en disant que Harari, par exemple, hein, eh bien nous propose lui aussi sa grande fresque de l'histoire. Hein. Évidemment, elle n'est pas du tout aussi spéculative que celle de Fessard, ni aussi spirituelle, bien sûr. Mais son premier livre, Sapiens, c'est Brève histoire de l'humanité. Et son second livre, Homo Deus, c'est Brève histoire de l'avenir, ou du futur, je ne sais pas. Là aussi, il y a une philosophie de l'histoire, hein, même s'il n'est pas philosophe de métier. Il en suggère quand même une à travers la manière dont il sélectionne, hein, des événements historiques pour les mettre en avant et dire que c'est vers ça que nous allons, et etc. Voilà, je vous remercie. Je vais...